crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
Les regardeurs.
Come and go with me.
Ils ont marqué notre sensibilité en découvrant ou commentant des chefs-d'œuvre qui depuis appartiennent à l'histoire de l'humanité. Ce sont les regardeurs. Aujourd'hui, nous observons une peinture intitulée « La charmeuse serpent » réalisée en 1907 par Henri Rousseau, dit le douanier Rousseau. Aujourd'hui, dans les collections du musée d'Orsay, La charmeuse serpent est en effet un des premiers chefs-d'œuvre que Jacques Doucet a acheté sur les conseils d'André Breton. Jacques Doucet, vous le savez, 1853-1929, grand couturier du XXe siècle, fut aussi un grand collectionneur et mécène de son temps. Jacques Doucet donc notre regardeur.
Par un temps aigre, près d'une barrière noire, sur un terrain fait de coquilles d'huîtres, un peintre peignait la plaine de Gennevilliers. Je la traversais, me rendant à Chatou. Bien curieuse, monsieur, votre peinture. Pourtant, rétorqua-t-il, elle n'intéresse personne, puisque personne ne m'achète un tableau. Moi, j'en achète un. Et c'est ainsi que je débutais dans la carrière de collectionneur par un Raffaelli. Mes vieilleries, maintenant dispersées, ne m'ont jamais donné autant de plaisir que les œuvres fraîches qui m'entourent aujourd'hui. Jacques Doucet, propos recueillis par Félix Fénéon dans le bulletin de la vie artistique, 1er juin 1921.
Pour parler de ce sublime tableau La charmeuse serpent et pour parler de Jacques Doucet, j'ai la chance d'avoir avec moi Jérôme Neutre. Jérôme Neutre, vous êtes directeur de la stratégie et du développement de la Réunion des musées nationaux, mais vous êtes surtout un commissaire obsessionnel, j'ai l'impression. Vous avez récemment réalisé l'exposition d'Edmund Newton au Grand Palais, Jacques-Émile Blanche à la Fondation Pierre-Berger Yves Saint-Laurent, Bill Viola, sublime exposition du Grand Palais également, Robert Mapplethorpe. Et alors dites-moi Jacques Doucet. Pourquoi Jacques Doucet? Qui est-il?
Alors, l'exposition s'intitule « Jacques Doucet, Yves Saint-Laurent, vivre pour l'art ». Et en fait, le sujet de l'exposition, ce sont les regardeurs qui font les tableaux.
Ça,
je ne dis pas ça pour vous, Jean, mais j'étais d'autant plus honoré d'être invité à votre émission que précisément le sujet de l'exposition, c'est le collectionneur vu comme un curateur, le collectionneur vu comme un artiste qui crée par sa sélection, par son installation, une sorte d'œuvre S-collection. Et Jacques Doucet et Yves Saint-Laurent ont en commun d'avoir déjà eu des pièces, des œuvres qui ont habité et chez l'un et chez l'autre, une filiation, et ensuite d'avoir vécu tous deux le véritable art de vivre, qui est l'art de vivre pour l'art. Voilà, ça c'est un peu le pitch de l'exposition.
En fait, ce qui est très important dans l'exposition, mais on va plus particulièrement d'ailleurs parler de cette œuvre incroyable du douanier Rousseau, mais ce qui est important dans l'exposition que vous avez fait, c'est que Jacques Doucet et dans une certaine mesure Yves Saint-Laurent ont véritablement conçu leur exposition, leurs acquisitions comme des installations. Et au fond, c'est une façon très conceptuelle de faire un rassemblement d'objets, et pas seulement probablement dans l'égotisme biographique, mais dans l'organisation des significations d'une passion.
Bien sûr, et l'exposition, en fait, traite d'extraits d'accrochage à la fois du studio St. James, la dernière demeure qui est un peu le chef-d'œuvre des collections de Jacques Doucet, 33 rue St. James à Neuilly, entre 25 et 29, et dans les salons du 55 rue de Babylone, chez Yves Saint-Laurent et Pierre Berger.
Alors, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est l'acquisition d'un paysage sublime du douanier Rousseau sur les conseils d'André Breton. Et c'est cela dont je voudrais vous parler. Il s'agit d'un grand paysage nocturne. Au bord d'un fleuve majestueux, dans le silence de la forêt tropicale assoupie, monte le son d'une flûte traversière. Dans les deux tiers droits du tableau du douanier Rousseau, la composition est envahie par une forêt luxuriante. Peinte méticuleusement, chaque feuille est soigneusement dessinée et colorée dans des subtiles nuances de vert, et dans les branches tortueuses des arbres se mêlent les corps sombres de quelques grands serpents qui surplombent une silhouette debout. Cette silhouette est debout, en effet, de face, la jambe droite légèrement avancée. C'est la charmeuse de serpent. Un vague tissu est jeté sur ses épaules et dans le contre-jour de la lune, pleine ce soir-là, le corps noir et nu de la flûtiste se distingue à peine. Seul le blanc de ses yeux en amande et les auréoles curieusement éclairées de ses seins nous regardent, nous fixent, nous fascinent obstinément. Elle a un boa autour du cou et deux autres serpents, surgis des herbes hautes, se dressent devant elle. À gauche, un échassier au bec en spatule contemple calmement la scène. Le fleuve est à peine ridé de quelques vaguelettes irisées par l'éclat monoculaire et pétrifiant de la lune qui dissout par sa lumière un ciel verdâtre. Au premier plan, trois buissons, vert clair, soulignés de jaune, ils supportent des fleurs ou des fruits gras et blancs. Et tout à droite, inscrit d'une écriture appliquée, en anglaise comme au tableau noir de l'école, Henri Julien Rousseau, 1907. Quelle date !
Bon, eh bien, c'est entendu, monsieur Delaunay. Vous allez me dire le prix que vous voulez de ce tableau. Un prix pour moi, bien entendu. Vous savez tout ce que je fais pour les artistes. De plus, après ma mort, toute ma collection ira au Louvre. Et je suis le seul collectionneur dont l'autorité puisse faire accepter par le Louvre la peinture d'avant-garde. Je reconnais avoir acheté à monsieur Robert Delaunay son tableau de Rousseau, La Charmeuse de Serpent, pour la somme de 50 000 francs, que je lui paierai en 5 mensualités de 10 000 francs chaque, pour la première le 15 juin 1922, et ainsi de mois en mois, pour la dernière le 15 octobre 1922. Le tableau restera chez monsieur Delaunay jusqu'à parfait paiement. Je le ferai assurer à mes frais. Je m'engage par la présente à léguer ce tableau au musée du Louvre en m'efforçant durant mon vivant à obtenir l'assurance de l'acceptation de ce legs. Paris le 9 mai 1922. François Chapon, 2006.
Jérôme Neutre, ce grand chef-d'œuvre de 1907 du douanier Rousseau, La Charmeuse de Serpent, est un tableau impressionnant par son format, par sa finition et par son charme, en effet. Comment est-ce que Doucet, ce grand couturier, s'est-il accaparé ce tableau? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui l'a conseillé?
Alors, l'exposition Jacques Doucet, Yves Saint-Laurent, elle devrait en fait s'appeler Jacques Doucet, André Breton, Yves Saint-Laurent, Pierre Berger. Car chez les deux collectionneurs et chez Doucet aussi, ce sont des ensembles qui ont été créés un peu en couple. Et force est de constater que les grands chefs-d'œuvre collectionnés par Doucet, je parle du Doucet du studio Saint-James, ce Doucet qui préfère la poussière la vie, comme il dit dans le seul entretien dont vous avez publié.
Pardon de vous interrompre, mais c'est très important ce que vous dites, parce que le Doucet du studio Saint-James, c'est un Jacques Doucet mécène et collectionneur qui crée sa troisième collection.
Émancipé, un collectionneur qui a trouvé son style. Il a vendu, lors d'une vente aux enchères célèbre en 1912, ses collections à la mode du temps, c'est-à-dire essentiellement des collections 18e siècle. Et il a commencé à s'intéresser contre vraiment tout courant et toute mode à des artistes que beaucoup, les professionnels de la profession, critiques d'art, conservateurs, moquaient. À commencer par ce jeune Roumain, comme il dit, qui s'appelle Constantin Brancusi, et dont Louis Vaucelles dit « tout ça, c'est bien pour les Américains », et qui n'aura de son vivant, il faut le dire,
Aucune exposition.
Mort, aucune exposition monographique en France, aucune galerie le représentant en France. J'ai commis un livre sur vos cousins, donc je connais un petit peu.
Seul Marcel Duchamp aura été d'une certaine façon son
commissaire
en Amérique.
Il aura été son commissaire et son marchand avec Rocher, mais en Amérique. Eh bien, Doucet, lui, immédiatement, très vite, évidemment, du vivant de Brancusi, achètera et la Danaïde et la Muse endormie.
Alors la Danaïde, c'est une des sculptures célèbres de Brancusi, qui est une sculpture en bronze, enfin il y a un plâtre évidemment, et qui représente une tête de femme avec un arc qui évoquera un peu la Muse endormie.
Exactement, et qui est décrit comme un œuf de cuivre par Picabia, qui la voit chez Jacques Doucet posée sur le canapé Marcel Cohard, au-dessous de la Charmeuse de Serpent.
Où elle est replacée en ce moment dans votre exposition. Elle est exactement au même endroit. Alors, précisément.
Et la Danaïde que nous a prêtée la Tate Britain, elle est dans le vestibule où elle était ensuite placée par Jacques Doucet sur toutes les photographies qu'on peut voir du studio Saint-James.
Mais revenez à ma question, s'il vous plaît, Jérôme Neutre. Soyez gentil de me dire comment et sur les conseils de qui ce fameux Jacques Doucet a-t-il acquis ce chef-d'œuvre qui est La Charmeuse de Serpent de 1907.
Donc André Breton. André Breton est embauché comme bibliothécaire et conseiller artistique par Jacques Doucet en
pas mal.
Juillet
Bonne
1921.
Pioche,
oui, il a 24 ans, jeune André Breton, qui n'est pas évidemment encore le célèbre père du surréalisme.
Mais un bon regardeur
mais
déjà.
Mais un très bon regardeur et qui va faire acquérir donc en 4 ans à Jacques Doucet, en motivant hein, par des lettres qu'il lui écrit, vraiment il argumente ses achats.
Il lui fait tout un programme très
bien
très
sûr,
construit. Hein.
Bien sûr, il lui fait acquérir rien de moins que le plus beau Rousseau, La Charmeuse Serpent, le plus célèbre des Picasso, Les Demoiselles d'Avignon, peint d'ailleurs la même année de 1907 que La Charmeuse.
Je soupire parce que le fait qu'elle soit repartie aux États-Unis, ouais, quel dommage.
Ben, on va en parler. Le Revenant de Quirico, l'esquisse du cirque de Seurat, qui est aujourd'hui dans les collections du musée d'Orsay. Et par exemple, j'ai ici un extrait du type de lettre. On n'a pas la lettre qu'il a écrite pour justifier la Charmeuse de Serpent, mais il écrit pour argumenter pour Les Demoiselles d'Avignon à son patron Jacques Doucet. « Je ne puis m'empêcher de voir dans Les Demoiselles d'Avignon l'événement capital du début du XXe siècle. Voilà le tableau qu'on promènerait comme autrefois la Vierge de Cimabue, à travers les rues de notre capitale, si le scepticisme ne l'emportait sur les grandes vertus particulières par lesquelles notre temps accepte d'être malgré tout. » Et donc ça, c'est un moment où Les Demoiselles d'Avignon traînent dans l'atelier de Picasso. Personne n'en veut. La Charmeuse de Serpent est acquise dans des conditions un petit peu différentes, puisqu'elle est achetée par Jacques Doucet à Robert Delaunay, au peintre Robert Delaunay, qui en a hérité de sa maman qui avait commandé en 1907 ce tableau au douanier Rousseau.
Donc il faut dire que Delaunay était très admiratif du douanier Rousseau.
Sûr.
Il avait une relation aux couleurs franches qu'utilisait Rousseau et à l'opticerie comme ça de Rousseau, très fasciné. Et je crois me souvenir que la maman de Delaunay, d'ailleurs qui a un nom particulier.
La mère de Robert Delaunay, dont je ne sais pas le nom, mais je sais qu'elle avait passé beaucoup de temps dans sa jeunesse aux Indes
et en Égypte.
Les Indes, exactement. Ouais. Et que son appartement était jalonné de plantes tropicales.
Et donc, c'est la mère donc de Delaunay qui a acheté ce tableau. Et Delaunay a accepté, c'est ce qu'on entendait tout à l'heure, de le céder sur l'insistance de Doucet.
Exactement.
C'est-à-dire et de Breton.
Que, Delaunay en hérite à la mort de sa mère. Et Breton le convainc de vendre à Doucet, parce que Doucet jure qu'il en fera don au musée du Louvre, parce que c'est le Louvre à l'époque.
Ce qu'il a fait, puisque l'œuvre est rentrée en 1937 au Louvre et a été, on peut dire, le premier tableau contemporain rentré au Louvre.
En 1936, mais elle a eu beaucoup de mal à être acceptée. Et il y a eu tout un débat dans les commissions. Et d'ailleurs, le même Louvre de l'époque, c'est-à-dire les mêmes réunions des musées nationaux de l'époque, en gros, qui a refusé, le legs. Loin de moi cette idée. Et qui a refusé Les Demoiselles d'Avignon, la tâche indélébile pour toute l'histoire des commissions de legs. Mais enfin, l'esquisse du cirque de Seurat, La Charmeuse de Serpent ont pu rejoindre les collections nationales.
Mais c'est quand même extraordinaire de penser que c'est Le Douanier Rousseau, le premier artiste contemporain rentré au Louvre avant Matisse et Picasso. Incroyable, incroyable. Alors je vous propose, Jérôme Neu, d'écouter à présent l'extrait d'un texte qu'André Breton consacre au Douanier Rousseau, et c'est paru dans Le Surréalisme et la Peinture, donc son premier grand livre sur la peinture.
Henri Rousseau ne peut être situé plus clairement que par rapport à deux de ses contemporains. L'humoriste français Georges Courteline, qui fait du portrait de Pierre Loti par Rousseau, acquis pour un franc, le clou et le pivot de son musée des horreurs. Et le grand poète Alfred Jarry, qui d'emblée assigne au douanier le rang auquel il a droit, et le révèle à Picasso et à Apollinaire. D'un côté le bon sens éculé, la croissante misère psychologique cherchant dans les sarcasmes à se libérer de l'éternelle peur d'être dupe. De l'autre, le génie doué naturellement de sens prophétique, dont les traits autrement cruels seront réservés au conventionnel et au banal, mais qui aura su trouver son bien dans les vieilles bannières et les pains d'épices moulés à l'effigie des saints de Bretagne, et pour qui la part du lion devra toujours être faite à une certaine flamme sacrée. Entre ces deux attitudes se règle historiquement le sort fait par l'opinion aux œuvres d'origine populaire non soumises aux canons esthétiques, que le brusque renom de Rousseau a imposé à l'attention. De défiant et ironique qu'il fut tout d'abord, l'accueil de ses œuvres s'est fait, surtout en Amérique, toujours plus compréhensif et plus ému. C'est qu'il n'est rien en dehors d'elle, ni la plus haute ambition intellectuelle, ni la suprême habileté d'exécution, qui puisse leur ôter cet apanage. Elle repose sur la pierre angulaire de l'ingénuité. Et cette ingénuité n'aurait-elle que le pouvoir de combler en nous la nostalgie de l'enfance, mériterait déjà d'être tenue pour une grâce sans égale. André Breton, Le Surréalisme et la Peinture, 1945.
Alors Jérôme Neutre, ce tableau appartient à une série très connue au fond du Douanier Rousseau, qui sont les fameuses jungles. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ces jungles qui se succèdent dans sa vie ?
Alors, une de ses premières jungles, c'est en 1891, surpris, la progression d'un tigre dans une forêt déjà luxuriante. Et c'est ce tableau, ce thème de la jungle, qui va faire un peu découvrir pour la première fois le douanier Rousseau, et sous la plume de quelqu'un de très important à l'époque, puisque c'est Félix Vallotton.
En effet, grand artiste suisse, admirable, donc il y a eu une rétrospective au Grand Palais il y a un an.
Admirable aussi, et qui, lui, va parler pour la première fois, mais de façon très positive, d'enfantine naïveté. C'est de là que va venir un peu la définition du douanier Rousseau comme peintre naïf.
Enfin, il dira donc, aussi, c'est l'alpha et l'oméga de la peinture. Le douanier Rousseau, c'est l'alpha et l'oméga de la peinture, ajoute Vallotton.
Et donc, si vous voulez, à partir de là, les premiers découvreurs vont s'intéresser au douanier Rousseau, les premiers regardeurs comme Jarry, Picasso, Apollinaire.
Mais aussi Kandinsky, Stieglitz et beaucoup d'autres. Oui.
Et les jungles, il va en faire une vingtaine plus tard, dans les dernières années de sa vie, probablement, je pense, influencé par le succès rencontré d'abord l'acquisition par Doucet de La Charmeuse de Serpent et l'acquisition d'une autre jungle par Ambroise Vollard. Il n'est pas non plus n'importe quel regardeur.
Le marchand de Degas et de beaucoup d'autres.
Ouais. Il va jusqu'à la fin de sa vie, donc dans les dernières années de sa vie, dans les trois dernières années de sa vie un peu, faire une vingtaine de jungles, dont un autre grand chef-d'œuvre, peut-être presque du niveau de La Charme de Serpent, est très intéressante pour notre histoire.
Attention à ce que vous allez dire, parce que La Charmeuse...
C'est Le Rêve.
Ah, d'accord. Le rêve.
Non, pourquoi Le Rêve? Parce que La Charmeuse du rêve, c'est-à-dire une autre Ève un peu dans une jungle luxuriante, blanche celle-là et pas noire comme celle de La Charme de Serpent, est allongée sur un sofa et Monsieur Doucet, lorsqu'il installe La Charmeuse de Serpent dans le studio Saint James, a vu Le Rêve, que André Breton adore, et donc accrochera La Charmeuse de Serpent au-dessus de ce canapé, réunissant d'une certaine façon dans sa nouvelle œuvre qui est son installation, les deux tableaux.
Je suis absolument d'accord avec vous. J'ai bien compris cela en voyant l'installation que vous avez refaite, donc de l'aménagement de Doucet. Donc vous avez, comprenez-moi bien, chers auditeurs, vous avez ce grand tableau, La Charmeuse Serpent. En dessous, comme une forme de barque, le canapé rouge qui réapparaît dans le tableau dont vous parliez à l'instant, donc qui s'appelle Le Rêve, dans lequel une jeune odalisque est installée au milieu d'une jungle. Et vous avez l'impression que les deux fascinations et les deux tableaux sont réunis par cette installation. Et c'est typique de cet œil parfait que vous indiquiez et qui est celui qui va faire, dans l'accrochage même de ces collections, une écriture, un tissage très subtil.
D'autant que Doucet va jusqu'au bout de l'idée. Il transforme un peu son salon du studio Saint James, qui est en fait une galerie, hein, qui est une sorte d'aire de jeu où il joue avec ses œuvres.
C'est trois salles
entre
en
eux.
Fait. Hein,
c'est trois salles, il n'y a même pas de chambre.
Il y a une entrée et
dans,
trois salles.
C'est fait dans une aile construite, aménagée dans une aile de son hôtel particulier rue Saint James. Et là, il transforme un peu ce salon en une jungle, jetant sur ce sofa beige, de cuir beige, qui est en mohair à l'époque d'ailleurs, fait de bois de rose exotique et d'ivoire, donc de matériaux très très exotiques, des fourrures de fauve. Il l'accroche à côté de l'homme à la guitare de Picasso, tableau cubiste quand même inspiré aussi par cet art brut africain.
Allusion aussi à l'amitié très particulière,
du douanier Rousseau
et de Picasso.
Picasso qui organisera au bateau Lavoir, là même où il a peint les Demoiselles d'Avignon, le fameux banquet en hommage au douanier Rousseau en 1908.
En effet.
Un banquet d'ailleurs, une sorte de parodie un peu de banquet où tout en célébrant le douanier Rousseau, il se moque aussi un peu de lui.
Et on peut dire ça, mais il y a cette phrase qui est toujours rappelée, n'est-ce pas,
de Rousseau
sur Picasso. Vous voulez la rappeler peut-être?
Oui, qui lui aurait dit au sortir de ce banquet, finalement, on fait la même chose. Vous faites dans le genre égyptien et moi dans le moderne.
Voilà, nous sommes les deux plus grands peintres de notre temps. Ouais. Vous dans le genre égyptien et moi dans le genre moderne. Dire ça à Picasso, c'est formidable. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que ce sont effectivement parmi les deux plus grands artistes du temps.
Et tous deux, comme je suis fasciné par ça chez les producteurs de chefs-d'œuvre, chez les génies, les inventeurs, les créateurs, tous deux ont une confiance en soi, une assurance, un programme. Et ça, on peut le voir avec Rousseau dans cette courte biographie qu'il écrit de lui-même en 1885, pour être sûr d'être inscrit dans une encyclopédie des peintres de son époque. Et il fait clairement allusion au programme qu'on verra que c'est vraiment un maître, un grand peintre.
Enfin, moi, je suis persuadé que c'est un grand peintre. Et je pense que Breton a vu là quelque chose qui a nourri son travail, qui est l'invention d'un réalisme magique.
Et il faut savoir que le programme de Breton pour Doucet, ce pourquoi il est engagé par Doucet, c'est de trouver les chefs-d'œuvre. C'est-à-dire que Doucet, et c'est son point commun avec Saint-Laurent qui justifie aussi notre exposition, c'est qu'ils avaient le sens du chef-d'œuvre, la familiarité avec le chef-d'œuvre. C'est-à-dire ce qui les intéresse, ce n'est pas d'acheter une signature, un nom, surtout que Douanier Rousseau, à l'époque de Doucet, n'est absolument pas une valeur, mais c'est d'avoir le chef-d'œuvre de chacun. Et Doucet, d'ailleurs, écrit à un correspondant, après l'acquisition de La Charmeuse Serpent, il dit « J'ai eu La Charmeuse Serpent, j'ai pas besoin d'avoir un autre Rousseau ».
Oui, effectivement, et c'était un peu le sens également des Demoiselles d'Avignon, où Breton lui dit, vous avez le cubisme, vous avez Jarry, vous avez dans ce tableau tout ce que nous avons aimé, Rimbaud, etc. Et s'il en faut un, c'est celui-là, il avait bien raison. Revenons, si vous le voulez bien, Jérôme Neutre, sur notre tableau, parce que nous l'avons décrit. Qu'est-ce qui vous paraît curieux ou fascinant dans ce travail ? dans ce tableau-là, La Charmeuse Serpent. Alors, quelle est la scène, au fond? De quoi ça parle? Qu'est-ce que ça raconte?
Alors d'abord, il y a une première chose. Bon, on peut le voir comme une sorte d'allégorie d'un jardin d'Éden. Hein. C'est le serpent, la femme. Mais, c'est pas à l'est d'Éden, c'est au grand sud d'Éden. Parce que l'Ève, elle est noire, là.
Oui.
Et en 1907, une Ève noire, très éminemment sensuelle. Parce que ce tableau est d'un érotisme certain.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Ça va pas de soi. Bah, écoutez, tout est en rondeur, tout n'est que forme, tout n'est que arrondi, tout est levé. Le serpent est levé autour de la femme. Le douanier Rousseau a certainement vu ce que Gauguin a peint. C'est certain.
Gauguin admirait beaucoup le douanier Rousseau, alors que Jacques Doucet n'aimait pas Gauguin.
Jacques Doucet est passé à côté de quelques artistes, c'est un autre sujet.
Revenons à notre sujet, pardon.
Il avait ses personnalités, il choisissait avec son désir, il choisissait pas selon ce qu'il fallait absolument acheter. C'est ça qui est intéressant. Et donc, dans ce tableau, moi, j'y vois aussi quelque chose d'abord de très surprenant, cette Ève noire, et c'est en 1907. En 1906 a eu lieu au Grand Palais la première exposition coloniale de Paris, où il y avait un salon colonial des beaux-arts. Braque achète ce premier masque du Gabon. Il y a l'exposition au musée ethnographique du Trocadéro, qui inspire beaucoup Derain, où Picasso dit redécouvrir le sens de la peinture. Donc ça, c'est un peu ce contexte qui est très nouveau aussi en 1907, de mettre un personnage comme ça, noir, au premier centre.
Je sais que vous répétez cette date parce que vous rappelez ainsi à vos auditeurs que ce tableau est de 1907 comme Les Demoiselles d'Avignon. C'est la même date. C'est très important de l'avoir en tête.
C'est quand même, c'est comme si vous voulez, en littérature, il y a Les Fleurs du Mal et Madame Bovary la même année. En art, il y a la même année La Charmeuse Serpent et La Demoiselle d'Avignon. C'est d'autant plus magique que le même regardeur a acquis ces deux chefs-d'œuvre absolus. Jacques Doucet.
Alors, ce que vous nous dites par rapport au sujet, c'est que c'est une Ève noire. Et ce que vous suggérez, si je vous comprends bien, c'est qu'il y a une inversion. Cette fois-ci, ce n'est pas le serpent qui fascine Ève, c'est Ève qui fascine le serpent.
Exactement. Il y a quelque chose d'assez provocateur qui renverse un peu la parabole biblique. Et ensuite, il y a cet oiseau rose dans
la
le
spatule,
bord gauche.
Oui.
Et il y a un peu, écoutez, c'est le noir et le rose. Hein, ou le rose et le noir. C'est-à-dire qu'il y a deux parts un peu de féminité. Il y a une charmeuse, une séductrice qui arrive à séduire même jusqu'au serpent. Et puis, cet oiseau rose qui est un peu très féminin, mais qui est une part plus diurne.
Le
diurne, parce que c'est la nuit, mais c'est la nuit pendant la pleine lune, en plus.
C'est une nuit très claire,
éclairée, très scintillante, avec les yeux de cette Ève noire qui scintillent comme des diamants.
Ça permet de mettre le sujet en contre-jour, ce qui est très intéressant, et ça permet de mettre le regardeur dans la situation d'un Adam fasciné à son tour.
Ensuite, il y a d'abord stylistiquement aussi quelque chose d'absolument fascinant et qui n'a pu que enthousiasmer Breton, mais Breton, une fois de plus, enthousiasmé à la lecture de ce qu'en pensait Jarry, sachant que Picasso avait adoré ce tableau, etc., etc. C'est une révolution stylistique, c'est-à-dire qu'on a l'impression que cette œuvre, elle est sortie des réserves du musée du Quai Branly 100 ans avant que le Quai Branly n'ouvre. Il y a quelque chose qui va à contre-courant de tous les canons de l'académisme. C'est l'intérêt du douanier Rousseau autodidacte, qui s'inspire de planches d'illustration et d'almanach, et qui ne met pas de perspective, qui construit ça un peu comme, qui dessine ça comme un décor de théâtre. C'est pour ça qu'on a souvent parlé à son propos d'un art naïf. En fait,
mais
c'est un art très savant.
Je partage tout à fait votre avis. On va y revenir. Alors, il faut se souvenir que on va revenir sur le tableau de près, si je puis dire, mais un petit mot encore sur André Breton. Il faut savoir que André Breton s'est brouillé vers 24, je crois, ou 25 avec Jacques Doucet. Je vous propose néanmoins d'écouter un entretien enregistré avec André Breton, réalisé par André Parinou à propos de Doucet, en 50.
J'assumais depuis quelques années les fonctions de bibliothécaire chez le couturier-collectionneur Jacques Doucet. J'étais aussi chargé d'orienter le choix des tableaux et sculptures à quoi devait être étendue sa collection d'art moderne. Je crois ne pas avoir été au-dessous de cette dernière tâche, puisque parmi les acquisitions que j'ai fait réaliser figure La Charmeuse de Serpent d'Henri Rousseau, l'esquisse pour le cirque de Seurat, les demoiselles d'Avignon et la femme dite au sorbet de Picasso, les muses inquiétantes de Quirico, la glissière et la rotative de Duchamp, des œuvres importantes de Picabia, de Miro. Drôle de figure quand j'y pense, celle de ce Jacques Doucet, alors septuagénaire qui, incontestablement, s'était montré homme de goût et passait, non sans quelques titres à cette appellation, pour un mécène. Il avait déjà fait don d'une bibliothèque d'art et d'archéologie à la ville de Paris. Il se préparait à lui léguer l'ensemble des ouvrages et manuscrits dont j'avais alors la charge et qu'on peut aujourd'hui consulter à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Le décider à l'achat d'un tableau n'en était pas moins une entreprise des plus laborieuses. Non seulement il fallait lui en vanter de vive voix, à maintes reprises, les qualités exceptionnelles, mais encore continuer à l'en entretenir au cours de plusieurs lettres.
Combien je me réjouis de revoir ces demoiselles. Ce que vous me dites de l'impression qu'elles vous ont causée ne m'étonne guère. Voilà qui va encore faire rentrer dans l'ordre les pièces de votre collection qui gardaient encore un caractère un tant soit peu agressif. Quant à la beauté de la toile, j'y crois aveuglément. On ne songe jamais assez que Picasso est le seul génie authentique de notre époque. Et un artiste comme il n'en a jamais existé, sinon peut-être dans l'Antiquité. Et quel signe des temps que ce soit un homme comme vous qui accueille une œuvre pareille. Voici donc résolu pour l'avenir le conflit de la révolte intellectuelle et du goût le plus éprouvé. L'audace absolue qui se perd dans l'éternité et la sagesse qui fit qu'elle ne vous effraya pas. Lettre d'André Breton à Jacques Doucet le 2 décembre 1924.
Bon, on entendait André Breton tout à l'heure, puis la lecture de sa lettre, mais on entendait qu'il y avait une petite quelques pointes un petit peu aiguës comme ça de la part de Breton à l'égard de Doucet. Je trouve que une rancœur le fait mesurer peut-être pas tout à fait à sa juste valeur ce qu'il a été comme mécène. Il se moque un peu de Doucet mécène, mais quel mécène ce personnage qui a inventé de façon quasiment illimitée une bibliothèque d'art qui manquait en France, qui est aujourd'hui le fond de la bibliothèque de l'Institut National d'Histoire de l'Art.
Et de la bibliothèque littéraire Jacques Doucet qui est place du Panthéon.
Où il avait donné à des chercheurs possibilité d'acquérir de façon quasiment illimitée ce qu'il voulait.
Il a inventé l'idée, en France en tout cas, d'une bibliothèque, vraiment une bibliothèque d'histoire de l'art. Mais pour moi, c'est plus qu'un mécène, précisément, parce qu'il est très actif. Il n'est pas actif seulement avec son carnet de chèques, il est en fait plus un producteur pour moi. Parce que c'est lui qui initie ces idées de bibliothèque. De la même façon, dans le mobilier, il donne l'idée à Rose Adler de faire des reliures de livres. Il veut que ces livres, y compris des éditions qui ne sont pas des éditions originales, soient un peu reliés, un peu comme des petits meubles, parce que chaque détail dans son intérieur doit participer de l'ensemble. On revient à l'idée d'installation, de musée vivant.
Pour ce qui est des reliures dont vous parlez, c'est quasiment l'invention de la reliure moderne qu'on aura, qui aboutit à Jean de Gonnet.
Ce qu'il appelle à un moment des reliures bijoux. Ouais. Et dont on a une sélection d'ailleurs dans l'exposition, donc Jacques Doucet, Yves Saint-Laurent, Vivre pour l'art, à la Fondation Pierre Berger, Yves Saint-Laurent. Donc Doucet est très producteur, il a vraiment un programme, il a des idées, c'est lui qui accroche chez lui, il n'a pas un décorateur attitré.
Il a un décorateur, mais c'est pas non. Lui qui accroche, c'est pas le décorateur qui accroche.
Non, il n'a pas un décorateur. Quand on parle de Pierre Legrain, maintenant on sait qu'il y a eu en fait beaucoup de gens qui ont travaillé à l'aménagement du studio St. James. J'ai retrouvé, et j'ai, vous avez vu dans l'exposition, ce dessin, c'est de la verrière du studio St. James qui est signé de Miklos, en fait, Gustave Miklos. Il demande à certains de réaliser ce qu'ils ne savent pas qu'ils pourraient réaliser quasiment. En cela, il est un peu comme Yves Saint-Laurent qui demande à Claude Lalanne de lui faire cet ensemble de 15 miroirs. C'est-à-dire qu'il agit comme un producteur, vraiment. Il oriente certains de ses jeunes talents en leur commandant telle ou telle pièce. En effet. C'est le cas de Marcel Cohard, d'ailleurs, qui crée ce sofa incroyable.
Qui joue le rôle de bateau sous notre chère charmeuse de serpent. On va y revenir, mais alors quelques mots donc encore sur la collection. Vous parliez tout à l'heure de la collection du XVIIIe siècle de Jacques Doucet. C'était une collection bateau et quelques autres immenses artistes, évidemment.
Très bien en soi.
Ensuite, il a fait une collection impressionniste, qui a été de très grande qualité également, dont il a gardé quelques éléments dans l'évolution, en particulier un des très beaux Manet que
sur
vous avez
la plage.
Sur la plage, qui est un des plus beaux Manet.
Mais en demandant à Hélène Gray, qui à l'époque évidemment était
de faire le cadre
inconnu, de faire un cadre, et ça devient une œuvre au carré. C'est une œuvre dans l'œuvre.
Absolument.
Et c'est assez audacieux de demander un cadre aussi radicalement contemporain dans une toile de Manet. Et ça marche extraordinairement bien.
Et l'autre aspect, c'est l'extraordinaire collection contemporaine dont il fait. On vient de parler et d'entendre les noms de Picabia, Picasso évidemment, mais aussi Miro, aussi un des plus beaux Modigliani qui soit, et bien d'autres. Donc, c'est une collection. Est-ce qu'il n'a pas dit à un moment donné, peut-être que vous allez pouvoir me rappeler cette phrase, c'est la collection de mon grand-père et de mon père, et qu'est-ce que c'est?
En fait, il n'a parlé qu'une seule fois, Jacques Doucet, dans le bulletin de la vie artistique, dans cet entretien dont on a entendu un extrait. Et effectivement, il a dit, j'aurais fait dans ma vie la collection de mon arrière-grand-père, de mon grand-père et de mes fils.
Voilà.
Qu'il n'a pas
même
eu.
Même de mon petit-fils, parce qu'il sentait que c'était au-delà du présent. Il allait de l'avant, il veut toujours voir devant.
Il est visionnaire, c'est vraiment un regardeur visionnaire, non seulement dans sa sélection de l'art contemporain, mais également dans son acquisition et dans le mélange qu'il fait de ce contemporain avec les arts premiers, les arts qu'on dirait aujourd'hui premiers. C'est-à-dire, il est un des premiers à avoir une collection d'art ancien asiatique, et il ne faut pas oublier que dans le vestibule, on entre déjà devant un Bouddha,
le grand Bouddha
en
chinois,
pierre, voilà, du VIe siècle, qui est aujourd'hui au musée Cernouchi. On a des masques africains, et tout ça se marie ensemble et prend sens et fait sens. Le fait d'avoir je prends un exemple de l'art africain, évidemment, autour de la charmeuse de serpent, crée cette sorte de paysage exotique, mais également d'avoir de l'art ancien asiatique à côté des bronzes polis de Brancusi. Les bronzes polis de Brancusi, dont Brancusi a eu l'idée en allant au musée Guimet, qu'il fréquentait souvent, et dont Paul Morand disait qu'il lui rappelait ces divinités qu'il trouvait par terre dans la jungle thaï. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Doucet avait accroché la muse endormie de Brancusi par terre sur un petit coussin de bois.
On dira donc posé plutôt qu'accroché, finalement.
Posé, exactement. Mais elle est accrochée comme sur le coussin de bois. Et nous avons voulu, justement, dans l'exposition, ce qui était l'intérêt, c'était de citer ces accrochages et donc de disposer la muse endormie par terre telle qu'elle était dans son écrin originel.
Alors revenons sur notre aventure. Nous étions affalés dans le sublime canapé rouge de Coire évoquant le
canapé beige. Vous le voyez rouge.
C'est marrant.
Il est couleur fauve. Il est couleur fauve.
J'espère que je ne découvrirai pas aujourd'hui. Je suis daltonien, ça briserait ma carrière. Et donc, je le vois oui, assez rouge, mais peut-être que je le confonds à dessein avec celui du douanier Rousseau.
Exactement, puisque celui du rêve.
Celui du rêve, puisque dans le rêve, c'est ce grand canapé rouge magnifique. Et donc, l'image a marché sur moi d'une façon subliminale. Et donc, nous sommes là. Nous regardions cette Ève tout à l'heure. Et au fond, d'où vient le sujet? Vous avez parlé tout à l'heure de cette inversion. Ève apparaît comme une fascinante et une fascineuse. C'est quelque chose qui est commun à l'époque. C'est un sujet qu'on connaît.
Non, mais il y a ce serpent qui danse autour d'un bâton. C'est le serpent qui danse baudelairien aussi.
Salambeau aussi, vous parliez de Salambeau tout à l'heure. Vous parliez de Flaubert.
Ouais. Il y a quand même une tradition de l'exotisme,
C'est vrai qu'on est à une époque.
Séduction de l'exotisme.
On est à une époque où il y a non seulement un exotisme dont vous parliez très justement, qui est cette découverte de l'art africain particulier, mais aussi l'exotisme fabuleux amené par les expositions universelles dont vous avez parlé également, qui on sait que ça a fasciné Rousseau, on sait qu'il y a pris ses modèles, et puis il y a l'exotisme qu'il allait voir au Jardin des Plantes, les animaux et les plantes, etc.
Et qui va perdurer, et d'ailleurs il y en a un qui atteste de la vraisemblance de cette hypothèse, c'est André Breton lui-même, donc ce premier regardeur, qui en 1948 écrit un essai qui s'appelle « Martinique charmeuse de serpent ».
Ah oui.
Illustré par André Masson.
André Masson, il y en a d'ailleurs, je crois, dans la collection, n'est-ce pas ?
Bien sûr, ouais. C'est pas dans l'exposition, mais il a eu aussi énormément, il a eu Picabia,
Marcel Duchamp.
Ouais, bien sûr, Marcel Duchamp. Donc,
alors, je disais quelque chose.
Il avait la rotative, d'ailleurs, de Marcel Duchamp, mais qui était pas dans le studio Saint-James, qui était dans l'hôtel particulier, en bas de son lit, en fait. Et sa femme écrit à une de ses amies, oh, il appelle ça sa machine à s'endormir.
C'est très joli, oui. Alors, je lisais, en préparant cette émission, je lisais des textes sur la représentation des charmeuses de serpents aux Folies Bergères à cette période-là. Et effectivement, il y a deux ou trois exemples qui sont intéressants et ça m'amusait de vous les citer. C'était l'une des attractions les plus célèbres en 1904-5-6, donc aux Folies Bergères, c'était Nala Damajanti, charmeuse hindoue, n'est-ce pas, qui était pas du tout hindoue, comme vous en doutez, mais qui était une charmeuse assez déshabillée, une sorte d'Ève extraordinaire, entourée de serpents, et qui a donné lieu à un objet qui serait inspiré, dont se serait inspiré le douanier Rousseau, qui est un automate, qui se trouve au musée des automates à Neuilly, et également dans le Midi, à Souillac, et qui est la charmeuse serpent de Souillac, qui aurait eu beaucoup d'importance. Alors, je crois avoir lu dans votre catalogue qu'il y avait une représentation d'une charmeuse serpent dans la collection du douanier Rousseau, chez lui. Ça vous dit peut-être quelque chose ? Il avait une estampe comme ça qui représentait
ce sujet. Le douanier Rousseau s'inspire. D'abord, le douanier Rousseau n'a jamais voyagé. Hein,
oui, vous avez raison.
C'est d'abord un mythe important. Il n'a jamais voyagé ailleurs que dans son imagination. Et dans les illustrés, comme on disait, c'est-à-dire dans
l'illustration,
dans une iconographie populaire, oui. de masse, on dirait kitsch aujourd'hui, et donc tous ces clichés un peu à la mode à l'époque, dont cette charmeuse de serpent que vous citez.
Vous pouvez nous rappeler l'histoire du Mexique, puisqu'il a le douanier Rousseau est allé au Mexique.
Non, le douanier Rousseau n'a pas plus voyagé que Raymond Roussel avec ses impressions d'Afrique qu'il publie en 1910.
Exactement.
C'est la même époque. Évidemment, on n'est jamais allé en Afrique. Leur voyage est imaginaire. C'est ça, c'est leur force. Simplement, ils voyagent beaucoup au Muséum d'Histoire Naturelle et dans la serre du Jardin des Plantes. Et il étudie, parce que comme vous avez dit, c'est tout sauf des dessins d'enfants. Hein. C'est l'enfantine naïveté dont parle Valoton ne veut pas dire un dessin vite fait, bien fait par un enfant. Et c'est quelque chose d'absolument soigné. Donc il va étudier ces plantes au Muséum d'Histoire Naturelle. Il s'inspire donc des estampes, des gravures d'almanach qu'il trouve, et sublime tout ça, et le transcende et impose un style. Il invente son style, avec par exemple quelque chose, on revient dans la révolution stylistique de ce tableau, il y a une asymétrie radicale imposée quand on regarde, lève, les personnages sont complètement à gauche, c'est absolument pas une composition comme une école des beaux-arts de l'époque l'aurait accepté.
Non, c'est une stratification.
École des beaux-arts que, grâce au ciel, le douanier Rousseau n'a pas fréquenté.
Sans ça, il aurait été influencé par Jérôme, artiste qu'il admirait, qui a représenté lui-même d'ailleurs un charmeur de serpents. Mais il y a un autre personnage auquel il avait raconté effectivement avoir été au Mexique et qui s'est laissé abuser et qui a fait courir cette légende, qui est Apollinaire. Et je vous propose d'écouter un extrait de Guillaume Apollinaire, autre regardeur du grand douanier Rousseau, dont le douanier Rousseau a fait un portrait accompagné de sa muse Marie Laurencin, qu'il a représenté énorme, disant
plusieurs portraits d'Apollinaire.
Apollinaire est un énorme poète, il lui faut une énorme muse, et Marie Laurencin était bien triste d'être représentée si vaste.
Peu d'artistes ont été plus moqués durant leur vie. Et peu d'hommes opposèrent un front plus calme aux railleries, aux grossièretés dont on l'abreuvait. Il voulait voir dans les moqueries même l'intérêt que les plus malveillants à son égard étaient en quelque sorte obligés de témoigner à son œuvre.
le douanier avait conscience de sa force. Il lui échappa une ou deux fois de dire qu'il était le plus fort des peintres de son temps. Et il est possible que sur bien des points, il ne se trompât point de beaucoup. C'est que s'il lui a manqué dans sa jeunesse une éducation artistique, il semble que, sur le tard, lorsqu'il voulut peindre, il ait regardé les maîtres avec passion et que presque seul d'entre les modernes, il ait deviné leurs secrets. Le douanier allait jusqu'au bout de ses tableaux, chose bien rare aujourd'hui. On n'y trouve aucun maniérisme, aucun procédé, aucun système. De là vient la variété de son œuvre. Il ne se défiait pas plus de son imagination que de sa main. De là viennent la grâce et la richesse de ses compositions décoratives. D'avoir servi pendant la campagne du Mexique, il avait gardé un souvenir plastique et poétique très précis de la végétation et de la faune tropicale. Il en est résulté que ce Breton, vieil habitant des faubourgs parisiens, est sans aucun doute le plus étrange, le plus audacieux et le plus charmant des peintres de l'exotisme. La charmeuse de Serpent le montre assez. Guillaume Apollinaire, 1914.
Nous sommes toujours sur France Culture en train de nous passionner pour La Charmeuse de Serpent et la personnalité extraordinaire de Jacques Doucet, collectionneur et mécène, dont il y a une exposition en ce moment sous le titre Yves Saint-Laurent, Jacques Doucet, Vivre pour l'art. Jérôme Neutre, est-ce que Apollinaire n'est pas celui aussi qui aurait écrit l'épitaphe de... Dans quelles circonstances d'ailleurs ?
Alors, Henri Rousseau meurt en 1910, un peu dans l'indifférence générale, et il est enterré à la fosse commune.
Je crois qu'il n'y avait que 6 personnes qui suivent
mais
son...
Mais l'année 1911, l'année suivante, il a sa première exposition monographique en France, mieux vaut tard que jamais. Et là, ses amis, quelques-uns de ses amis, parce que le jour des funérailles, des premières funérailles à la fosse commune, qui sont que 7 derrière son cercueil, eh bien, quelques-uns de ses amis, dont Apollinaire, etc., se cotisent quand même pour lui acheter une concession de 30 ans, d'ailleurs, au départ. Et Brancusi se charge de faire le médaillon en bronze. Ouais. Et Apollinaire écrit une épitaphe qui est gravée sur la pierre tombale et que je vous lis. Nous te saluons, gentil Rousseau, tu nous entends. Delaunay, sa femme, Monsieur Queval et moi. Laisse passer nos bagages en franchise à la porte du ciel. Nous t'apporterons des pinceaux, des couleurs et des toiles, afin que tes loisirs sacrés dans la lumière réelle, tu les consacres à peindre, comme tu tiras mon portrait, la face des étoiles.
Magnifique. Alors, nos auditeurs qui voudront aller voir cette tombe...
Ils iront à Laval.
Ils iront à Laval, en effet.
Parce que maintenant, après, elle a été déplacée bien plus tard à Laval, dans sa ville natale, qui était aussi la ville natale de son ami et premier regardeur, d'une certaine façon, pour cette premier entre-regardeur, parce qu'il l'a présenté à travers ses écrits, Alfred Jarry.
Voilà, avec lequel il y a une amitié qui a duré toute sa vie. Et peut-être j'ajouterais que la ville de Laval, qui a la chance d'avoir cette tombe, n'a pas eu la chance d'avoir pourtant un des grands tableaux d'Henri Rousseau qui leur a été proposé en donation et qui était Le Rêve. Pas de chance.
Et qui est aujourd'hui un peu plus loin que Laval, puisqu'il faut aller vraiment à l'ouest de Laval, sur Madison Avenue et 53e rue à New York, au muséum au MoMA.
Quel dommage.
Pas pour les Américains et pour les nombreux visiteurs internationaux du MoMA, qui peuvent voir en même temps les Demoiselles d'Avignon.
Oui, tout à fait, voilà, donc c'est tout à fait juste.
Et les Poinçons rouges de Matisse, qui était aussi dans le studio Saint-James.
Alors, qu'est-ce qu'il y avait ? Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'autour de ce tableau, il y avait la muse de Brancusi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre autour ?
Alors, il y avait. Nous avons la photo.
On essaie de voir la composition que Doucet avait imaginée.
D'abord, l'accrochage, il a un peu il a été modifié. Souvent, on disait, ah bah, c'était comme ça parce qu'on ne connaissait que 7 photos du studio Saint James, de ce décor, qui était paru en mai 1930, donc postérieur à la mort de Doucet en 29.
Qui n'a vécu qu'un an, quasiment, dans son rêve.
Un peu plus,
son
rêve, plus. Il l'a aménagé pendant, sur 3 saisons, quoi.
D'accord.
C'est vrai, assez peu. C'est vraiment c'est son tombeau.
Oui, c'est
le tombeau sens poétique.
Ouais, ouais, ouais.
Il crée son tombeau, c'est son testament, c'est le testament d'Orphée, quoi. C'est le testament de Doucet. Et alors il accroche donc. Quand on regarde la Charmeuse de Serpent, on a en dessous, mais vraiment collé au dessous. Et j'ai respecté dans l'accrochage, il y a moins de 10 centimètres entre le tableau, le cadre du tableau, et le rebord du sofa, ce qui là encore n'est pas vraiment très orthodoxe pour des conservateurs, mais il veut vraiment que tout c'est comme si le tableau faisait partie, le canapé faisait partie du tableau, le tableau était sur le canapé. Donc il y a des fourrures de bêtes devant une table bilboquet qui est une des premières d'Hélène Gray, en bois aussi de rose, juste à côté du tableau sur la droite, donc en regardant le tableau, une nature morte à la pipe de Braque qui est dans notre exposition. Une nature morte de Matisse, l'homme à la guitare, donc chef-d'œuvre cubiste, l'autre grand chef-d'œuvre cubiste de Picasso avec les Demoiselles d'Avignon, qui était aussi chez Doucet, qui est aujourd'hui au musée de Philadelphie, qui a bien voulu nous le prêter pour l'exposition. Une composition de Quirico extraordinaire, qui est le deuxième Quirico que possédait avec le revenant Jacques Doucet, et qui est aujourd'hui à Houston, dans la célèbre Menil Collection. Et un des plus beaux Modigliani, la blouse rose, qui est aujourd'hui au musée Angladon, en Avignon.
Oui, parce qu'une partie de la collection Doucet, nos auditeurs ne le savent peut-être pas, est à Avignon, dans ce très très joli musée Angladon, où on va peu alors qu'il a un charme et une qualité d'objet extraordinaire.
Qui est un musée fondé par les héritiers de Madame Doucet. Et il y avait aussi donc d'autres mobiliers, pièces de mobilier très... tout unique et très audacieuse, un guéridon de Groult en bois de rose et en ivoire, les mêmes matériaux qu'utilise Coart pour ce sofa.
Il faut dire que Doucet, comme vous le disiez tout à l'heure, était vraiment un producteur parce qu'il intervenait à tous les moments de la création de chaque meuble. Hélène Gray disait même, je crois que au fond, cette fameuse...
Elle a renié d'ailleurs la table au lotus à cause de ça.
Qui est un de ses chefs-d'œuvre.
Oui.
Mais elle considère qu'elle a été faite autant par Doucet que par elle. Ben,
c'est ce qui fait quand vous avez fait allusion très justement un peu à la prise de distance tardivement d'André Breton vis-à-vis de son mécène et patron Jacques Doucet, et ben, c'était un des arguments d'André Breton, c'est qu'il trouvait qu'il intervenait trop dans la composition même de certains tableaux. Il trouve lamentable, André Breton, que les artistes cèdent à Doucet quand il dit vous devriez rajouter ça ou ça. Mais c'est en cela que Jacques Doucet, le terme de collectionneur ne lui sied pas. Pour moi, c'est vraiment un curateur. C'est un producteur.
Raison, vous
il agit, Jacques Doucet, avec les artistes et avec les designers, comme vous agissez, Jean, quand vous êtes commissaire de Monumenta. Non, mais c'est vrai. Vous travaillez avec la production de l'artiste et vous dialoguez avec l'artiste. Et c'est dans ce dialogue entre le curateur, le premier regardeur et l'artiste que se crée l'œuvre.
Est-ce que vous ne trouvez pas un peu ironique de la part de Breton de reprocher la manipulation que Doucet fait des œuvres, alors que lorsque l'on voit le mur de Breton, qui est en ce moment au Centre Pompidou, dans la collection du Centre Pompidou, ça n'est qu'une construction mentale extraordinaire d'ailleurs, mais il a refait exactement ce montage.
Non, mais moi je pense que il y a une prise. D'ailleurs, il avait écrit un article qui s'appelait Distance là-dessus où il est très critique vis-à-vis de ses amis aussi artistes sur c'est très idéologique, c'est sur la question surtout de l'argent. Il trouve que tout ça a trop d'argent. Il y a trop d'argent dans tout ça. Déjà, il parle de la spéculation de l'art aux mains des marchands, et en fait Doucet, c'est vrai, discutait beaucoup
les prix.
Il discutait beaucoup les prix. Et d'ailleurs, la Charmeuse de Serpent a été achetée en 10 traites pour 50 000 francs.
Exactement.
5 000 francs par mois.
Pareil,
et
pareil,
les Demoiselles d'Avignon,
20
000 francs.
2000 par an.
Ouais. 2000 par an. Voilà. Ouais. Il est très, 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 très dur. Et aujourd'hui, il y a
oui,
peu de...
Oui, mais il a un point de vue qui je trouve formidable, parce qu'il transmet. Au fond, Pierre Berger d'ailleurs souvent s'exprime un petit peu dans ce sens-là par rapport à la vente de ses propres collections de livres, par exemple. Nous ne sommes que les possesseurs transitoires des œuvres.
Exactement.
Et nous les transmettons.
Ils ont ce point
à d'autres
commun.
Qui vont en hériter.
Ils ont ce point commun. Les œuvres ne leur appartiennent pas. Les œuvres ne leur appartiennent pas. Ils ont la chance à un moment d'habiter avec ces œuvres et tous les deux. C'est-à-dire et Jacques Doucet, Yves Saint-Laurent, leur collection a été dispersée et d'une certaine façon c'est très bien et ça rejoint un peu l'esprit, si vous voulez, des Goncourt qui transmettent leur collection et Goncourt qui disent eh bien comme ça ne partira pas dans les musées qui sont des tombeaux, mais à des héritiers de notre goût.
Oui, c'est exactement ce que répète effectivement Pierre Berger remarquablement. Dites-moi, en quoi est-ce que cette attitude de composer des installations avec des œuvres d'art est quelque chose qui pourrait nous paraître aujourd'hui contemporain? En quoi est-ce que ça nous concerne?
C'est totalement en 1925, c'est l'influence du Champienne. Il y a une dématérialisation comme ça de l'œuvre d'art elle-même et ce sont d'une certaine façon pour moi les premières installations artistiques avec d'autres, c'est-à-dire les œuvres ne sont pas fabriquées par l'artiste artisan, mais relève d'une composition. Et donc ça, c'est éminemment contemporain. Ce qui est aussi éminemment contemporain, ce n'est pas seulement dans la forme, dans cette espèce de médium qui est cette installation, mais dans le sens que donne cette installation. Parce que qu'est-ce que nous dit l'accrochage de Jacques Doucet dans le studio Saint-James ? Il nous dit en 1929, c'est-à-dire 60 ans avant l'invention du concept par un autre curateur célèbre, que tous les artistes, qu'ils soient de l'Asie ancienne, anonymes africains, des arts dits premiers, ou célèbres impressionnistes comme Manet, ou jeunes sculpteurs comme Brancusi, raillés par la critique, tous sont des magiciens de la terre.
Merci beaucoup Jérôme Neude, merci pour cette belle intervention sur cet artiste immense, le douanier Rousseau, qui d'ailleurs fera l'objet d'une rétrospective prochainement au musée d'Orsay. Voilà. Je crois dans deux ou trois mois, et voilà. Certainement à nouveau une émission
à la suite
sur le douanier Rousseau.
Au musée d'Orsay que je remercie, en particulier son président Nico Cheval, d'avoir accepté quand même de prêter La Charmeuse de Serpent, qui est quand même une œuvre iconique devant laquelle des foules viennent religieusement se recueillir.
Je crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
C'était Les Regardeurs, une émission en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, nous avons regardé, aimé La Charmeuse de Serpent, une huile sur toile peinte en 1907 par Henri Rousseau. Vous retrouverez toutes les références des livres, des musiques sur le site franceculture.fr, attaché d'émission et site internet Sylvia Favre. Merci Sylvia pour tout ce que tu fais. Lecture des textes, Claudine Huneau, belle voix. À la technique, Valérie Lavalard. Réalisation, Franck Lilin. Merci Franck. Les Regardeurs, une émission de Sandra Adam et Jean Deloisy.
Come until you go, babe. Go to come for me, babe. Come to go by me, babe. Come to go with baby. Come to go.